On a commencé cette série début mai 2023 en se disant que le sourire était dans cette affaire une scène de crime. Et on s'est laissé dans le quatrième épisode à la porte du deuxième procès. Procès en appel des deux dentistes marseillais, Lionel et Jean-Claude Gedge. En première instance, comme Mathilde vous l'a raconté dans l'épisode 3, ils avaient été condamnés à 8 et 5 ans de prison.
Dans la mesure où le Dr Gedge conteste formellement l'ensemble des faits qu'on lui oppose, dans la mesure où il conteste l'ensemble des faits qui ont donné lieu à cette condamnation, il va de soi qu'il ne peut pas accepter d'avoir été déclaré coupable.
Il y a un mois, le 20 octobre 2023, le deuxième procès a rendu sa décision. Et vous nous connaissez maintenant dans l'affaire, on vous laisse rarement sans la fin de l'histoire. Et donc avec Mathilde Sey, que vous avez entendu dans les quatre premiers épisodes de cette série, on va vous raconter ce qui s'est passé entre-temps.
On va vous raconter ce procès titanesque que j'ai suivi pendant près d'un mois et que les 374 parties civiles de ce dossier hors norme ont attendu pendant près d'un an, jusqu'à la décision donc du 20 octobre 2023.
Les appels, le procès, tout ça, faut que ça se termine. Parce que c'est très long. Ça fait 12 ans déjà qu'on vit ce cauchemar et on en a marre.
On va faire donc ensemble une mise à jour de cette affaire du sourire Gedge coproduite avec le quotidien 20 minutes. Un documentaire qui a d'ailleurs été mis à l'honneur lors de la remise du prix du public du Paris Podcast Festival 2023. Je sais pas quoi vous dire d'autre que merci. On peut décidément compter sur vous, merci d'être toujours plus à nous écouter aussi. On essaye de notre côté de faire en sorte que nos enquêtes soient à la hauteur.
Lui promettait à ses patients un sourire de star.
Le dentiste le mieux payé de France.
Il m'a dévitalisé ce jour-là, 17 dents.
À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents taillées. Plus de sourire, plus rien.
Violence volontaire et escroquerie.
70 patients par jour.
La peine habituelle, c'est juste impossible.
Docteur Gale est quelqu'un de tout à fait lucide.
On nous a massacré.
Beaucoup sont ressortis de son cabinet, la bouche mutilée.
Il va de soi qu'il ne peut pas accepter d'avoir été déclaré coupable et qu'il ne peut pas davantage accepter, bien sûr, d'avoir été placé en détention. Raison pour laquelle, notamment, depuis son incarcération, nous avons déployé des demandes de mise en liberté parce que j'estime que quelqu'un qui a comparu libre en première instance, qui s'est présenté durant 10 années dans le cadre d'un contrôle judiciaire, qui n'a jamais failli aux obligations qui ont été mises à sa charge, doit pouvoir comparaître dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en homme libre, devant la cour d'appel qui aura à connaître à nouveau de ce dossier.
Ce procès, Mathilde, il s'est ouvert en fait juste après la diffusion du quatrième épisode de notre série, fin mai 2023, où tu nous racontais la très longue attente des victimes avant ce deuxième procès. À ce moment-là, presque un an s'est écoulé entre la première condamnation pour mutilation dentaire donc de Lionel et Jean-Claude Gedge. Et cet appel, ce second procès s'ouvre. J'imagine que toi, en tant que journaliste du bureau de Marseille du quotidien 20 minutes, qui suit ce dossier depuis très longtemps, qui a fait ce podcast, le jeudi 25 mai 2023, tu ne vas pas rater le début et l'ouverture de ce procès.
Ah ben oui, moi la date était inscrite de longue date sur mon agenda. Donc le 25 mai, je vais... devant cette fameuse salle des procès hors normes, voilà, c'est dans le centre-ville de Marseille, c'est pas à côté du tout du tribunal classique, c'est une salle qui a été construite dans une cour d'une ancienne caserne, il faut s'imaginer une sorte de grand cube posé là, qui permet d'accueillir toutes les parties civiles qui sont très nombreuses, hein, je le rappelle, plus de 300 parties civiles. Et tout le monde pense que ça va être, on va rejouer un petit peu ce qui a été fait en première instance, c'est vrai que quand on regarde, on retrouve les mêmes avocats, les mêmes victimes qui sont là. Il y a plus de journalistes, ça c'est sûr. Et moi, par contre, je suis la seule à savoir que non, ça ne va pas commencer comme on pensait que ça allait commencer.
Tu veux dire quoi ?
Il manque quelqu'un. C'est pas un petit détail, il manque pas un personnage secondaire de l'histoire, puisque je sais par la voix de l'avocat de Lionel Gedge qu'il ne sera pas là. En fait... En préparation du procès, j'avais pris contact avec une partie des avocats qui étaient impliqués dans ce dossier. Et Maître Pinelli me confie que son client a des soucis de santé, des soucis graves, a priori, cardiaques, anciens, qu'il est porteur d'un pacemaker qui est défectueux. Et il a été victime de malaise quelques semaines, jours avant le procès. Et donc, il n'était pas certain qu'il soit en état de comparaître. Et donc, il lui donne cette information en me demandant de la garder pour moi. C'est ce qu'on appelle un embargo dans notre jargon. Et je vais au procès en sachant que il sera potentiellement pas là. Et effectivement, on rentre dans la salle. Et dans le box, il n'y a personne. Il n'y a pas Lionel Gage.
Jean-Claude Gage n'est pas venu non plus ?
Si, Jean-Claude Gage est là. Jean-Claude Gage est libre, comparé libre, parce qu'il a été obtenu une remise en liberté conditionnelle. Et c'est la première fois que je vois son visage, puisque dans le précédent procès, il avait un masque. Du coup, l'avocat de Lionel Gage explique pourquoi son client n'est pas là. Il demande qu'une expertise médicale soit faite. Et l'expertise dit deux choses. L'expertise dit que y a pas de pacemaker. Il n'a pas de pacemaker. Il a halter sous-cutané. Je ne suis pas médecin. Mais c'est un petit dispositif qui enregistre le rythme cardiaque, en gros. Et que, en fait, Lionel Gage, a priori, selon les médecins qui l'ont examiné, est totalement apte à comparaître. Donc, le procès s'ouvre comme ça. Et donc, c'est un peu bizarre comme début, parce que donc, c'est le 31 mai au matin. Donc, on sait que, finalement, entre guillemets, il va à peu près bien, enfin, suffisamment bien pour venir. Et donc, on attend. Et il faut aller le chercher. Et Draguignan, Marseille, Lionel Gage est détenu à Draguignan. C'est pas à côté. Donc, il faut faire partir un fourgon, venir le chercher en détention, revenir. Et donc, c'est un démarrage un peu bizarre. En fait, ça démarre que 2-3 heures après. Il arrive dans un fourgon. Et là, moi, je m'en souviens très bien, il est méconnaissable. Il a les traits tirés. Il est très amaigri. On se regarde avec les collègues, les confrères, les avocats, les victimes que j'ai pu côtoyer lors de ce procès. Et on se dit tous... Il a vraiment changé. La détention, de toute façon, on le sait, ça, c'est quelque chose qui marque. Quand il arrive, il y a son père qui est derrière, un peu à l'écart. Il arrive dans le silence. Et quand il est arrivé dans la salle, il est arrivé en boitant. Il s'est assis dans le box. Et il avait l'air hébété. Le regard, tu sais, un peu hagard comme ça. Comme s'il n'était pas là presque. Comme s'il ne comprenait pas, ou... Enfin, c'était très étrange.
Toi, tu te dis à ce moment-là, je ne vais pas assister au même procès ?
Non. Mais dès le départ, quand j'ai su qu'il commençait en disant qu'il était malade, quand je vois que dès le départ, il n'est pas là, je me dis, non, ça ne va pas être la même chose.
Parce que pour rappeler ce que tu as déjà dit dans les épisodes précédents, le premier procès... Il a un côté un peu théâtral, il remet en cause énormément de choses, il est limite belliqueux dans sa façon de parler en fait vis-à-vis de l'avocat général, il parle de théorie du complot, il y a très très peu de remise en question.
Oui, je ne dirais pas qu'il est belliqueux, disons que c'est pas le même procès, parce que c'est le procès de quelqu'un qui comparaît libre, et qui est libre depuis des années, et c'est donc le procès de quelqu'un qui, je sais que lui-même aussi attendait ce procès pour pouvoir s'expliquer. Et quand on voit qu'il a physiquement comment il a changé, on se dit qu'il a été marqué par tout ça. Et moi, je me dis que peut-être ça va être un autre procès, puisqu'il se produit dans d'autres conditions, avec un Lionel Gage qui arrive dans d'autres conditions.
Il s'ouvre sur quoi, ce procès ? Cette première semaine, elle est dédiée à quoi ? On va s'arrêter peut-être sur son patrimoine, non, si je ne me trompe pas ?
Oui.
On rappelle un petit peu ce que tu as déjà raconté dans le podcast. Toute cette fortune accumulé au gré de ses interventions pendant une dizaine d'années, par en tout cas 6 ans, par Lionel et Jean-Claude Gage.
C'est un des enjeux du procès, parce qu'en en première instance, il avait été décidé de ne pas confisquer une partie de ses biens, notamment la maison familiale à Aix-en-Provence et le bureau de tabac sur le cours Mirabeau, qui est une artère très chic et passante d'Aix-en-Provence, qui est elle-même une commune assez bourgeoise. Mais effectivement, la question est abordée lors de l'audition de sa femme, Emmanuelle Gage, puisque se pose la question d'une éventuelle confiscation de ces biens-là, et de aussi comment, même si l'enquête est toujours en cours sur le sujet, comment il aurait organisé son insolvabilité.
C'est-à-dire ce que tu racontais dans le podcast, qu'il ait transféré une partie de son patrimoine à sa femme.
C'est une manière de mettre, pour être un peu plus schématique, son patrimoine à l'abri d'éventuelles saisies, oui. Et au procès en appel, elle explique qu'elle, elle n'avait jamais rien demandé. Et lui-même, il ne confirme pas ces dires-là. Et donc, on se demande du coup pourquoi il a fait ça. Quel est le mobile ? Et sur le mobile, jamais Lionel Gage n'a dit lors de ce procès en appel que le mobile était l'argent. Il se montre assez offensif, presque, je dirais, dans la contre-attaque. Il a près de lui, il faut imaginer un grand classeur avec dedans des expertises. Et il explique que, voilà, il va montrer que les expertises sont fausses, qu'il a les preuves et qu'il va tout expliquer. En gros, un tel expert a dit que telle patiente s'est fait dévitaliser 27 dents. En fait, il y en a 25. Si telle patiente s'est fait dévitaliser 18, en fait, il y en avait 20. Et il y a un avocat qui fait remarquer, il dit, mais le chiffre à la limite, c'est pas la question. Que vous en ayez fait 18, 20, 25, bon, c'est dommageable. Hein. Mais la question, c'est pourquoi vous les avez dévitalisées, ces dents qui étaient saines? Pourquoi vous l'avez fait? Et à chaque fois, il répond, c'est que parce qu'à l'époque, je pensais que c'était le bon choix, c'était un choix thérapeutique.
Il y a, dans cet exposé des faits, avant qu'on entende les victimes potentielles, avant qu'il y ait ce défilé à la barre, ensuite, il y a une expertise psychologique qui a été faite de Lionel Gage durant sa détention?
Ça n'a pas été fait dans le cadre de Lionel Gage et ça a été déploré par le président, effectivement, parce qu'il a une personnalité qui, pour le moins, interroge et peut expliquer aussi en partie les faits. Mais c'est une personnalité qui n'a pas été expertisée par un psychologue.
Moi, ça m'interpelle parce que, en première instance, ça a été l'homme pressé, celui qui dit avoir tout réussi, ses diplômes de chirurgien-dentiste, qui veut faire plaisir à tout le monde, donc prend des patients entre deux rendez-vous pour justement faciliter le travail. Et en fait, est dans une frénésie et dans quelque chose qui n'arrête pas. Et là, dans ce second procès, on retrouve un peu ça, dans ce côté très tatillon, en fait, de je pointe tout, je lâche, il baisse jamais la garde, en fait.
Non, c'est vrai. Bah, il est dans une logique combative. Après, il est arrivé à ce procès en disant je vais me défendre et je vais vous prouver mon innocence. Donc, il est très offensif, parce qu'il s'agace, en fait. C'est un homme qui s'agace vite et qui a du mal à garder son calme. Et il coupe la parole du président quand le président essaye de lui poser des questions, à tel point que d'ailleurs son avocat lui-même lui dit dès le premier jour « taisez-vous un peu ». Ce qui jette un petit froid dans la salle.
Il y a quatre semaines de procès qui sont prévues, donc dès le premier jour, ça veut dire quelque chose. Il y a forcément un contraste, peut-être, qui va se créer à partir de la deuxième semaine où on va commencer à entendre les plaignants. C'est-à-dire que là, il va y avoir un défilé, une soixantaine de personnes qui vont venir témoigner du préjudice qu'elles ont subi sur les 300 patients, plus de 300 patients en tout cas qui constituent ce dossier. Et elles ont attendu en plus parfois 10 ans, comme on le racontait dans le podcast, certaines sur les premiers faits, jusqu'à 2022 la première instance, d'être entendues. Elles ont été entendues lors du premier procès. Là, le défilé...
Il est différent.
Ah ouais?
Bah oui, parce que la première fois que les plaignants, les victimes viennent à la barre, c'est la première fois qu'elles sont écoutées et elles parlent. On sent ce besoin encore hyper fort de parler. Et je pense que la deuxième fois, il y a plutôt l'envie de justice. Et ça se ressent par exemple dans le témoignage de Marie, qu'on a entendu dans le podcast.
C'est la première voix qu'on entend dans ce podcast, d'ailleurs.
Exactement.
Alors, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans, je suis actuellement maman de deux enfants et je suis célibataire, je travaille esthéticienne dans un salon. Il faut que ça se termine et il faut que la justice rende justice, quoi. Il faut faire les choses parce qu'on veut tourner la page, on veut passer à autre chose, qu'on en a marre. On en a marre d'experts, un juge, un avocat, stop! Stop! Ça fait 12 ans déjà qu'on vit ce cauchemar et on en a marre. À l'époque, je venais d'être mère et je vais peut-être être grand-mère demain. Vous imaginez, on en a encore là, quoi. C'est un cauchemar.
Et en fait, il s'avère, c'est le hasard, mais que Marie a été une des premières à déposer à la barre, comme on dit, à témoigner lors du procès en appel. C'est la première femme. Et dans le discours qui était le sien, on sent beaucoup ce besoin et cette demande de justice. Moi, je connais son histoire. Et pour autant, j'ai été émue par ce qu'elle a déposé à la barre. Déjà, elle est arrivée très élégante, très apprêtée. Et elle avait en fait écrit une lettre au président et à la cour. Au président. Une lettre qu'elle a lue dans un silence de cathédrale. Il n'y avait plus un bruit. Elle a beaucoup touché et parce que c'est une lettre en fait qui demande justice et qui explique pourquoi. Et cette lettre, elle me l'a remise à la fin avec même sa radio qu'elle avait amenée. Elle avait amené la radio de ses dents. Et je trouve que cette lettre, effectivement, montre le besoin de justice. Je l'ai prise avec moi parce que je pense que c'est le plus intéressant. Elle commence comme ça, cette lettre. Monsieur le Président, d'abord, je voudrais vous remercier et remercier cette cour d'avoir pris ma douleur et ma peine en considération. Monsieur le juge, moi, je n'avais que 20 ans et j'étais une petite fille heureuse de vivre mais naïve. Monsieur le juge, je me permets de vous dire que je suis devant vous debout et digne. Vous ne pouvez pas vous imaginer par quelle phase psychologique je suis passée. Je me suis battue pour ne pas sombrer et heureusement que ma famille m'a pris à bout de bras pour me mettre debout et avoir la chance et l'opportunité de me retrouver aujourd'hui devant vous pour que vous m'entendiez. Enfin, on me regarde. J'existe. Je suis un être humain. On va peut-être me guérir, mon Dieu. Monsieur le Président, que ce procès me fait du bien. Je me sens considérée, respectée, regardée. Merci à vous tous de vos efforts pour faire jaillir la vérité. Je n'y croyais plus. Je pensais que je m'étais fait avoir et que je n'avais droit à aucun recours. Et elle conclut, elle parle de son besoin de justice. Je suis mère de famille et je ne sais plus quoi transmettre à mes enfants pour qu'ils aient confiance. Je ne voudrais pas leur instiller la méfiance de tous les médecins, dentistes, pharmaciens parce que quelques brebis galeuses ont fauté. Car malgré tout cela, je fais toujours confiance aux institutions de mon pays et j'espère que justice me sera rendue ainsi qu'à toutes ces pauvres personnes victimes de ce personnage. J'ai compris, grâce à ce procès, que la seule richesse, le seul patrimoine que possède un pauvre, ce sont ses dents. Et cela m'a et nous a été volé.
Il y a quelque chose que je vois tout de suite là-dedans. Ces gens, dans leur tête pendant très longtemps, je pense qu'ils ont été sans voix, parce que beaucoup le disent dans le podcast, physiquement, ils ont fermé la bouche après ce qui s'est passé, après ce qui les a ravagés, ces interventions qui les ont ravagés. Certains ont perdu du poids, des dizaines et des dizaines de kilos parce qu'ils ne se nourrissaient plus. Jusqu'à donc rogner ce qui fait qu'ils existent, c'est-à-dire parler, manger, partager.
Sourire. Et puis, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'il y a 300 victimes qui se croyaient seules. Qui croyait être le seul cas. Et il a fallu le procès pour découvrir qu'elle n'était pas seule. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un groupe WhatsApp des victimes qui se soutiennent. Et c'est ça, en fait, aussi l'enjeu de ce procès derrière. Et c'est ce que dit Marie dans sa lettre. Elle a compris qu'elle n'était pas seule et qu'un procès était là pour rendre justice à un certain nombre de victimes comme elle.
Face à cette douleur, Lionel Gage dans son box, son père qui comparaît libre à côté, comment ils réagissent ?
En fait, ils ont tous les deux une attitude différente. Lionel Gage, il écoute, mais il n'a pas l'air de prêter grande attention. Il ne regarde pas forcément les parties civiles. Il regarde par terre. Par contre, Jean-Claude Gage, lui, il est dans une logique. Enfin, je ne sais pas si c'est une logique, mais en tout cas, Il dit moi j'ai merdé, je reconnais que j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est une phrase, si je me trompe pas, que Lionel Gage n'a jamais dit. Il a peut-être dit j'ai merdé, il a peut-être dit j'ai fait des erreurs, j'ai eu des négligences. Mais c'est pas la même attitude. Jean-Claude Gage essaye de peut-être n'est plus dans le soutien sans faille de son fils. Il dit, voilà, j'aurais dû alerter, j'aurais dû... Avec le contexte, aujourd'hui, je me dis que j'ai mal fait.
Ça veut dire qu'après le défilé de tous les anciens patients, tous leurs dommages qui sont exposés, il y a un début de mea culpa ?
Alors, pour Lionel Gage, oui. À la fin, effectivement, des auditions des parties civiles, si je me souviens bien, il y a donc Lionel Gage a toujours ce bloc-notes qui ne le quitte pas, ce stylo qui ne le quitte pas. On voit discuter avec son avocat, qui lui glisse des mots à l'oreille. Et effectivement, il fait un premier début de mea culpa en disant « je suis certain que je suis allé beaucoup trop vite dans l'étude de chaque cas. L'examen a été bâclé. Je reconnais que c'était des bêtises. » Et j'insiste, voilà, il le fait en regardant son avocat qui hoche la tête, Maître Pinelli. Et l'avocat général dit donc cette histoire de complot, Monsieur Gage, c'est fini. Et là, il dit non, le complot, on le voit bien dans ce dossier, il y a des anomalies importantes. Et là, Maître Pinelli, on voit son visage qui se crispe.
Et donc, l'avocat général va comprendre en fait que, non, il n'y a pas vraiment d'avancée, visiblement, après, malgré 2 semaines sur 4 consacrées à l'audition des plaignants et des anciens patients. Est-ce qu'au final, il va changer quelque chose dans son réquisitoire par rapport au premier procès ?
Non, en fait, c'est les mêmes demandes qu'en première instance. C'est-à-dire la peine maximale contre Lionel Gage, 10 ans, et 5 ans contre Jean-Claude Gage, 5 ans de détention. C'était un réquisitoire qui était très court, mais qui était très clair. Il a résumé l'affaire en quelques mots. Il a dit « Les qualificatifs qui me viennent à l'esprit pour synthétiser ces jours d'audience sont la cupidité, le cynisme, l'égoïsme, l'indifférence, la trahison, la douleur, la haine, le mensonge. » Je dirais que c'est un réquisitoire qui est clinique, qui est clair, qui est net et qui est sans ambiguïté. Et il a aussi des termes pour Jean-Claude Gage qui dit que c'est un co-auteur qui ne pouvait pas ignorer que ce qui se déroulait sous ses yeux et auquel il participait était quelque chose d'anormal, voire d'illégal.
Je crois qu'il dit même que Jean-Claude Gage organisait le service après-vente. C'est-à-dire qu'une fois que les premières interventions étaient problématiques, lui-même il refaisait des interventions derrière.
C'est ça, lui-même s'est qualifié de dentiste qui intervenait en urgence. Il expliquait qu'il le faisait un peu à la demande de son fils, pour être un peu caricatural, mais c'est un argument que n'a pas retenu l'avocat général pour qui, voilà, puisque c'était un dentiste expérimenté, il savait ce qui se tramait dans la bouche des patients de son fils.
C'est ce que va plaider la défense, c'est-à-dire que ce rythme a entraîné peut-être des erreurs médicales, des fautes professionnelles, mais qu'il n'y avait pas une...
C'est ça, des négligences, mais qu'il n'y avait pas une volonté... De mutiler, il n'y avait pas une volonté de faire mal, mais qu'effectivement, c'est un dentiste qui était très apprécié, qui avait beaucoup de patients et qui s'est retrouvé à un moment peut-être dépassé, qui a commis certaines erreurs. Mais c'est ce qu'a dit d'ailleurs Maître Pinelli dans le podcast, c'était cette argumentation-là.
C'est la fin de 4 longues semaines de procès.
Oui.
Quand tu ressors, toi, de la salle d'audience la dernière fois, et que tu regardes autour, tu penses qu'il y a eu une avancée ?
Non. J'ai l'impression qu'on a... Il n'y a pas eu d'avancée sur les faits. J'ai constaté que voilà, Lionel Gage était dans cette attitude avec peu de remise en question. On n'est pas dans un débat apaisé, en tout cas. Ce qu'on aurait pu penser, mais c'est la même tension que lors du procès en première instance. La différence pour moi qui a été notable, encore une fois, à quel point Jean-Claude Gage a essayé de se désolidariser dans les mots de son fils. Lui a changé un petit peu de discours et de posture vis-à-vis des faits. Avec pour lui un enjeu qui est de taille, enfin pour son fils aussi, mais il était libre et il souhaitait le rester.
4 mois vont effectivement s'écouler entre la fin de cette audience, ces 4 semaines d'audience et donc l'arrêt de la cour d'appel, la décision le 20 octobre 2023. On en parlera la semaine prochaine ensemble. Merci Mathilde.
Merci à vous.
Et merci à toute la team Paradiso Média qui a préparé ce nouvel épisode. Théo Albaric à la Réal avec Léa Varin et Caroline Allaire. Enfin, dédicace toute particulière à Agathe qui nous a rejoint il y a quelques jours pour empêcher de dormir sa maman Clémence Olivier, la productrice des 4 premiers épisodes du Sourire Gage. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.